Erev Tov les Koulam, Erev Tov, bienvenue en direct de ma cuisine pour ce petit chiour pour ma communauté préférée de Givat Shmuel, Likrat Yom Yerushalayim. Alors, c'est difficile pour moi de faire un cours pour vanter les mérites de Jérusalem à une communauté qui a décidé de tourner le dos à Jérusalem. Comment je vais faire pour essayer de vous vendre la chose alors que vous êtes tellement bien dans votre centre du pays? Que faire? Mais bon, on va essayer de voir, on va essayer de comprendre qu'en fait Jérusalem n'est pas seulement une ville, ça va bien au-delà et donc ça nous concerne tous. Alors, sans plus attendre, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Sur le Facebook, sur le YouTube Live, j'ai marqué Jérusalem et après. Qu'est-ce qu'on fait après, une fois qu'on a atteint Jérusalem? Alors maintenant, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet, Léat. Il y a eu un rêve qui s'appelait Jérusalem. Ce rêve-là a maintenu la cohésion du peuple juif durant 2000 ans. Je commence volontairement directement là-dessus. Ah, l'ambulance passe, c'est bien, voilà. Je commence directement volontairement là-dessus pour qu'on comprenne bien quelle place Jérusalem va prendre au sein du peuple juif. Pendant 2000 ans d'exil, ce n'est que le rêve et l'espoir d'un retour à Jérusalem qui a maintenu le peuple juif. Pour la simple raison que pendant 2000 ans, un juif, et vous le savez, on en avait déjà parlé, pendant 2000 ans d'exil, un juif, c'est un rabbin. C'est un rabbin ou tout ce qui tourne autour. En d'autres termes, c'est un juif pratiquant, un juif religieux. Pour la simple raison que s'il n'est pas religieux pendant l'exil, eh bien, il s'assimile et il disparaît du peuple juif. Donc, pas de problème. Un juif qui fait la Torah, il reste juif, certes. Mais le problème, c'est que si l'appartenance au clan d'Israël ne passe plus que par l'accomplissement des mitzvot, eh bien, c'est évident que pendant ces 2000 années, on va se scinder en plein de peuples différents. Parce qu'au niveau de la halakha, eh bien, on ne pratique pas le même judaïsme si on habite au Maroc ou si on habite en Pologne ou en Allemagne ou au Yémen, en Tunisie, et ainsi de suite. Vous allez me dire... Au Maroc, c'est mieux. Je ne veux pas prendre parti. Maintenant, vous allez me dire, non, mais qu'est-ce que tu racontes? De manière générale, on est d'accord. Mais bien sûr que de manière générale, on est d'accord, mais c'est justement dans les points de détail que les gens se séparent. Je ne voudrais pas lancer un gros pavé dans la mare, mais à la base, entre les gens qui étaient fans de Jésus au tout début et le reste des Juifs, c'était des points de détail qui les séparaient les uns les autres. Sur les cas généraux, ils avaient l'air d'être pareils. Et pourtant, ces points de désaccord qui étaient des points de détail, on sait ce que ça a amené finalement. Alors évidemment, les Avdil, les Lef, Alfer, Avdalot, parce que moi je parle de gens qui font la halakha et au Maroc et au Yémen, mais il n'empêche que ces changements, aussi petits soient-ils, en fait, ils sont très nombreux. Et s'ils n'avaient été que eux le vecteur de l'identité juive, eh bien on se serait retrouvé avec 5, 6, 7 peuples différents. Mais le fait que pendant ces 2000 années, au-delà de la halakha, il y avait une dimension qui s'appelait l'an prochain à Jérusalem, qui était le rêve de Jérusalem, eh bien ça a permis de garder cette cohésion nationale. Donc, si je devais lancer le cours sur Yom Yerushalayim, eh bien je dirais, c'est quoi Jérusalem ? Eh bien, Jérusalem, c'est ce qui permet de garantir la pérennité du peuple juif, l'éternité du peuple d'Israël. Alors, je vois que Nathan nous a rejoint, toi aussi, donc tu t'es barré du cours où on était tous les deux. Et moi, j'ai une bonne excuse, je suis censé donner le cours, toi, t'as pas d'excuse. Nounou.
Il y a des secrets qu'on révèle pas.
C'est ça. C'est ça. Bon, tu me diras ce que tu as beaucoup appris ce soir. On en parlera tout à l'heure. Enfin, quoi qu'il en soit, Macheloye, Jérusalem est ce qui a permis de garantir l'éternité de la nation juive. Et c'est donc de cela qu'il s'agit. Et c'est pour ça que ce n'est pas anodin, ce n'est pas pour rien que, vous savez, le Talmud va analyser, la Gemara va analyser ce verset de Divrei Hayamim. Bon, c'est un verset que vous connaissez très bien, qui nous dit, on reprendra la Tfila très souvent, on nous dit Lecha Hashem Agedula Vagevura Vatiferet Vanetzar Vahod. C'est-à-dire le pasouk il est connu, et la Gemara va analyser chacune des appellations, qu'est-ce que c'est. Par exemple, on va dire que Tiferet Zematan Torah. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est lorsque le Talmud nous dit Vanetzar Zeyerushalayim. Vanetzar Zeyerushalayim. En d'autres termes, la Gemara nous le dit. La qualité primordiale de Jérusalem, c'est l'éternité. C'est le Netzach. Seulement, qu'est-ce que ça veut dire? Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, mais on n'a rien dit. Qu'est-ce que ça veut dire, va Netzach Zeyerushalayim? Mes amis, pour comprendre cette dimension de Netzach, il n'y a pas mieux que la Gemara dans Maseret Baba Metzia, dans cette fameuse histoire que tout le monde connaît, une question de halakha extrêmement intéressante. Oui? Oui.
Tu vois le chat?
Non, pas du tout.
On peut poser des questions sur le chat?
Vaut mieux que tu les poses en bécole. Excusez, je vois pas le chat, moi.
D'accord, alors j'ai deux questions. On a eu le schisme avec Jérusalem.
On a eu le schisme avec Jérusalem, oui.
Malgré le fait que Jérusalem, qui symbolise l'unité du peuple juif et l'éternité, il y a eu quand même un schisme à l'époque où il y avait Jérusalem. Et deuxième question, est-ce que quand on parle de Jérusalem, on ne parle pas de l'idée de l'esprit de Jérusalem,
donc
de la ville en elle-même.
Ok. Alors, très bonne question. Combien de temps, selon toi, il a duré le schisme dont tu parles avec Jérusalem?
Au moins quelques années.
Tu ne te mouilles pas. C'est-à-dire, mais si c'est que quelques années, tu comprends que ce n'est pas vraiment un vrai schisme. Et effectivement, tu as raison, le schisme, il va durer que quelques années. Il va durer 12 ans. En fait, il va durer uniquement pendant le règne, la deuxième partie du règne de Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat, celui qui va faire le schisme, eh bien, la deuxième partie de son règne, d'abord, il consolide sa mamlacha à lui, et ensuite, il met en place des interdits, des murs. Il fait vraiment construire un espèce de, pas un mur genre muraille de Chine, mais des points sur les points de passage au sud, c'est-à-dire de Bethel, pour arriver à Jérusalem, eh bien, il y a des murs qui sont mis en place avec des gardiens, et on empêche les Juifs du Nord de venir au Sud. Lorsqu'il meurt, son fils, Avia ben Yerovam, qui continue la malroute, eh bien, la première chose qu'il fait, c'est d'annuler ces chaumerines, d'annuler ces murs-là. En d'autres termes, on peut retourner à Jérusalem. Il y aura deux mamlachot, mais il n'empêche que les Juifs continueront à venir à Jérusalem pendant les Shalosh Regalim. Donc, si tu veux, le schisme, il n'a vraiment pas duré longtemps. Et donc, c'est plus un incident de parcours, le moment où vraiment il y a une scission avec Jérusalem, qu'une réalité historique. Maintenant, pour répondre à ta deuxième question, est-ce que ce n'est pas d'abord et avant tout le Rayon? J'ai envie de te dire oui et non, ou alors non et oui. C'est-à-dire, en mikra yotsemi depshuto. C'est-à-dire que, évidemment que Jérusalem est porteur d'un idéal qui la dépasse, mais c'est d'abord et avant tout Jérusalem. C'est-à-dire que quand tu regardes les versets de Tehilim, ils nous parlent, je te parle des versets qui parlent de Jérusalem, ils nous parlent de la Jérusalem d'abord concrète. Après, tu peux faire des tilé Tehilim chez l'Alacha sur ce que ça représente. Je te donne un exemple. Un exemple que, moi personnellement, je comprenais pas avant que je me balade pas la première fois parce que j'ai pas fait attention, mais dans les fois après où j'ai été me balader à Yer David. Alors, je pense que tout le monde a été se balader à Yer David. Quand tu vas sur le Tatspit, au tout début de la visite, et que tu vois un petit peu Ir David, en fait, tu peux voir à 360 degrés où tu es, bah, tu comprends, Pitom, le verset. Quand on te dit dans Tehilim que Yerushalayim Harim Saviv là, qu'est-ce que ça veut dire quand tu es en route la arrête, c'est que tu connais pas Jérusalem? Eh bien, tu commences à expliquer Rayonit, qu'est-ce que ça veut dire dans le verset, alors que Jérusalem est entourée de montagnes, Dieu nous protège, machin, d'accord? Sauf que quand tu arrives à Ir David, qui était la Jérusalem à l'époque de David, ben tu regardes à l'est, tu vois le mont des Oliviers qui est en surélevé. Tu regardes à l'ouest, tu vois la colline occidentale qui est aujourd'hui la vieille ville, le quartier juif qui est surélevé. Tu regardes au nord, tu vois Arabaït qui est surélevé. Et tu regardes au sud, tu vois les montagnes de Judée qui commencent avec Armon de Nativ et qui est surélevé. Et donc tu vois que vraiment Jérusalem est entourée de montagnes. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aussi expliquer ce que ça représente. Mais ça ne sort pas du contexte d'abord du pchad de qu'est-ce que c'est Jérusalem. Donc évidemment que Jérusalem, et a fortiori pendant l'exil, est devenue un raïon, est devenue une idée. Mais cette idée prend ses bases dans du concret et doit se réaliser dans du concret. Ok ? Donc, je reviens à ce que je disais. Donc, Nogmara, dans Masalet Baba Metzia, qui nous répond, qui nous parle d'une histoire avec une question que vous connaissez bien, un problème extrêmement intéressant. Si jamais j'ai fait un four en disque d'argile, eh bien, est-ce que ce four peut recevoir la Touma ou ne peut pas recevoir la Touma ? Voilà, question qui nous intrigue au plus haut point tous les jours, évidemment. Et donc, cette question, eh ben, Machloktis, deux rabbins, Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, qui sont comme d'habitude jamais d'accord. Il y en a un qui dit ça peut recevoir l'impureté, l'autre dit ça peut pas recevoir l'impureté. Mais il y a la Machloquette. Seulement, on a de la chance. On est à une époque, entre chez Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, où il y a le Sanhedrin. Donc, pas de problème, Machloquette. Au final, on vote et la décision est prise à la majorité. La majorité des rabbins suivent Rabbi Yehoshua, mais Rabbi Eliezer n'accepte pas. Et il dit, mais c'est moi qui ai raison et je vais vous donner des preuves. Et là encore, puisqu'il ne s'agit pas d'un verset, mais il s'agit d'une agada de la Gemara, pour le coup, je ne suis pas obligé de dire que tous les éléments qui sont amenés dans la agada sont forcément d'abord des réalités concrètes et historiques. Le Maharal de Prague nous a expliqué dans Be'er HaGola que les agadotes dans Chazal ne sont pas forcément à prendre au sens propre. Donc ici, Rabbi Eliezer donne comme premier argument le caroubier. C'est quoi le caroubier ? Il dit le caroubier, il va se déraciner et se renraciner 100 mètres plus loin. Mais qu'est-ce qu'il représente le caroubier ? Eh bien, il représente la force de la transmission. On connaît bien ce caroubier de l'histoire de Chroni à Mergel qui voit un vieillard planter un caroubier et lui dit « Mais enfin, tu n'arriveras jamais à profiter de ce caroubier puisque ça met 70 ans à donner des fruits. » Ça ne met pas 70 ans, mais ça met longtemps. Et toi, tu ne vas pas tenir jusque-là. Et le vieillard répond « Mais quand moi, j'étais jeune, j'ai trouvé des caroubes, donc je le plante pas pour moi, mais pour mes petits-enfants. » En d'autres termes, le caroubier représente la force de la transmission. Car la première étape pour comprendre la Torah, c'est la transmission. Je ne le dirai jamais assez, mais lorsqu'on a une question de halakha, les premiers à qui on doit poser la question, c'est à papy et à mamie. C'est d'abord par là que ça passe, la transmission de génération en génération. Après, Rabbi Eliezer ne se contente pas de ça, il dit bon, mais cette transmission, c'est bien, mais cette transmission, elle doit être basée sur quoi ? Sur la Torah. C'est-à-dire que mes grands-parents qui regardaient la télé Shabbat, ils n'ont jamais dit que c'était la Torah. Donc, si tu veux, je ne vais pas me baser là-dessus pour dire « Mes grands-parents regardaient la télé Shabbat, donc c'est permis. » Donc, le deuxième argument de Rabbi Eliezer, c'est « Amatamaim ». L'eau qui coule du haut vers le bas, lui, il la fait remonter du bas vers le haut. Mais c'est quoi l'eau ?« Enmaim et la Torah ». Donc, non seulement j'ai une transmission, mais en plus, cette transmission, elle est ancrée dans la Torah. Mais la Torah, ça ne suffit pas de seulement la voir comme étant un Shulchan Aruch. Il faut également savoir quel est le rationnel derrière. Comment on arrive à cela ? Le pourquoi des choses ? Eh bien, le pourquoi des choses, on l'apprend au Beit HaMidrash. C'est pour ça qu'au final, eh bien, Rabbi Eliezer donne comme troisième argument les murs du Beit HaMidrash. Pour dire, moi, j'ai aussi la massorette du Beit HaMidrash derrière moi. Et finalement, alors que Rabbi Yehoshua n'accepte toujours pas, il dit, bon, joker, bat kol. Bat kol. Une voix sort du ciel et dit « Malachem etel Rabbi Eliezer, shalacha kmoto b'chol makom. » Pourquoi vous prenez la tête Rabbi Eliezer ? Seulement, d'ailleurs, entre parenthèses, petite question, « Poskim al pi bat kol » ou « Lo poskim al pi bat kol » d'après la halakha ? Ken, ken, lo, lo ? Ken. Ken. C'est-à-dire que tout le monde connaît la Gemara ici que je viens de citer, qui dit, bah non, la Bat Kol a dit, mais finalement Rabbi Yoshua, il a dit, lo bashamayim hi. Seulement, tout le monde sait qu'on est possède la halakha comme Bet Hillel et pas comme Bet Shammai. Et qui a amené à cette prise de décision? Bah là aussi, une voix qui est sortie du ciel. Donc c'est pas aussi tranché qu'on n'écoute pas la Bat Kol. Mais là-bas, Rabbi Yoshua, il dit, lo bashamayim hi. Et donc, tu as donné la Torah au Am Israël, et c'est Am Israël qui décide de la halakha tel qu'il le comprend. Peut-être que Rabbi Eliezer a raison, mais on n'arrive pas à intégrer ses arguments. Donc, on s'en fiche de savoir s'il a raison, la halakha ne sera pas comme lui. C'est comme Rabbi Meir. Vous savez, Rabbi Meir, nous dit Rabbi Sekaro dans Shulchan Aruch, chez En Bedoro qui Rabbi Meir. Et pourtant, lo poskim halakha comme Rabbi Meir. Pourquoi ? Qui lo yardou chaverav le sof da'ato. C'est-à-dire, personne n'arrive à comprendre vraiment ce qu'il veut Rabbi Meir, il est trop fort, il est trop profond, il est trop puissant. Bah d'accord, bah si t'es trop fort, trop profond, bah on fait pas la halakha comme toi, même si c'est possible que t'aies raison. Ça, c'est l'histoire. La Gemara continue et nous dit que deux jours plus tard, Rabbi Nathan, qui était présent à ce moment-là, a rencontré Eliyahu Hanavi, qui s'est dévoilé à lui, et lui a dit, dis-moi, pendant que nous, on se battait au Beit HaMidrash, Dieu, il faisait quoi? Et là, Eliyahu lui répond, Dieu a souri, et il a dit, Nitzruni banai, Nitzruni banai. Et on a l'habitude de traduire en disant ils m'ont vaincu. Aval zelo. On n'a pas vaincu Dieu, c'est pas le débat. Et là, asuoti netzach. Nitzruni, ils ont fait de moi le netzach. Comment? Bien, parce qu'ils montrent que de génération en génération, ils vont débattre de la halakha. Eh bien, ça veut dire que de génération en génération, la halakha que j'ai donnée il y a 1500 ans, quand on se place du point de vue de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, eh bien, elle est toujours vivante au quotidien. C'est ce que nous faisons quand on étudie là ensemble ce soir, Nitzruni Banai. On fait de Akadosh Baruch Hu, Netzar Ba'olam Hazeh. Et c'est cela la dimension de Jérusalem. Va Netzar Zeh Yerushalayim. Le fait que pendant toutes ces années, aujourd'hui évidemment j'en parle même pas, je reviendrai aujourd'hui après, mais pendant toutes les années d'exil, nous n'avons cessé de rêver Jérusalem, de prier Jérusalem, de penser Jérusalem, eh bien ça a fait de Jérusalem Netzach. D'ailleurs, rappelez-vous bien de toutes ces takanotes que met en place Rabban Yochanan ben Zakkai. Lorsque va tomber Jérusalem, eh bien il met en place plein de takanotes. Vous remarquerez que ces takanot, elles ne sont généralement pas en rapport avec le Beit HaMikdash qui est tombé, mais elles sont en rapport avec Jérusalem. On a tous été à un mariage et on a tous vu le Khatan exploser son dernier iPhone. Oui, c'est le vert. Mais le vert, c'est le iPhone d'aujourd'hui. C'est pourquoi Rabbi Yochanan ben Zakkai met en place de casser le vert, parce qu'à l'époque, un vert, ça coûte très, très cher. Donc ça fait vraiment mal au cœur. Ici, eh bien, c'est un petit peu dommage. Aujourd'hui, les mecs, ils prennent le verre du houlam, ils comprennent pas ce que ça représente. Et dès qu'on le casse, tout le monde fait des you-you. Qu'est-ce qu'il dit le Khatan avant de casser? Il y en a des versets qui parlent de la destruction du Beit HaMikdash. Mais le verset qu'on dit, c'est Imeshkacher Yerushalayim. C'est-à-dire que tout est tourné autour de Jérusalem. Lorsque les dessinateurs du Roi Lion, oui, je parle du Roi Lion, eh bien, on fait la première scène du début. Et ne me dites pas que vous vous rappelez pas de cette scène. Lorsque Rafiki, le babouin, va introniser, va faire la Brit Mila, en fait, à Simba, eh bien, on se rappelle tous du moment où il lui met un espèce de truc sur le front. Ben oui, ben c'est comme moi. Quand je suis monté sur la Roupa, eh bien, le rabbin, il m'a mis de la cendre sur le front. C'est la même takana en souvenir de la destruction de Jérusalem. Pourquoi chez nous, nous avons à l'entrée de la maison, un carré de 1/2 mètre sur 1/2 mètre qui n'est pas terminé, en souvenir de Jérusalem.
Je sais pas si c'est pour moi, mais on te voit plus, là, sur le site.
Qui, moi?
Ouais, toi.
Pourtant, je suis là.
Et si on mord, moi?
Faut que tu bouges les cases, les carreaux.
Ouais, non, c'est ce que j'ai fait, mais...
Tu me vois pas?
En tout cas, perso, je te vois plus. Je sais pas si les autres te voient, mais...
On voit.
Ah, okay. On voit. En même temps, il n'y a pas grand chose à voir, mais bon.
Autant pour moi.
Bon. Donc, si tu veux, la majorité des takanot ont été mises en place pour le Beit HaMikdash. Pour, c'est grave, justement pour Jérusalem et pas pour le Beth Amikdash. Donc Jérusalem, véritablement, c'est ce qui a permis de lui donner ce côté Netzach. C'est ce côté Netzach de Jérusalem qui a fait, bah, qui a fait que les combats pour Jérusalem que nous allons symboliser vendredi, eh bien, ont été si particuliers. Et là, j'aimerais vous faire part d'un truc personnel qui m'est arrivé hier. Hier, bon, j'ai été tourner une vidéo pour Kalita qui devrait donc s'en repasser vendredi. Et donc, on a été tourné à Givat HaTachmoshet. Et donc, j'ai eu la chance de retourner à Givat HaTachmoshet hier. Alors, j'y étais plein de fois à Givat HaTachmoshet, mais c'était la première fois qu'on m'a permis de rentrer dans le nouveau musée souterrain de Givat HaTachmoshet. Il a même pas un an. C'est le tout nouveau musée souterrain de Givat HaTachmoshet, extraordinaire. J'ai été incroyable. Il faut que j'y retourne pour m'en imprégner complètement maintenant. Mais c'était vraiment une expérience assez incroyable. Et donc, on avance. Et j'arrive à la fin du musée. Et à la fin du musée, la dernière salle, c'est frappant. Je suis devant un, ils appellent ça Akir Azahav. Il dit, il y a le Kir du Kotel, Veyesh Akir Azé. C'est quoi ce Kir Azahav? Eh bien, je vois donc ce mur doré avec marqué des noms. Et en fait, ce sont les 182 noms des 182 soldats qui sont morts dans les combats de Jérusalem. Pas que à Givat HaTachmoshet, mais dans tous les combats de Jérusalem. Et je me rends compte, en fait, que ces gens-là qui sont tombés, c'est eux qui ont fait Ve Netzach de Yerushalayim. Je me remémore tout d'un coup toute l'histoire de Givat HaTachmoshet. Toute l'histoire du combat de Jérusalem. Alors, je suis obligé de rentrer un petit peu dans l'histoire. Vous le savez que normalement, on n'aurait pas dû conquérir Jérusalem. Dans la guerre des six jours, c'est pas prévu au départ d'avoir Jérusalem. Parce que c'est pas prévu de se battre contre les Jordaniens. Parce que c'est pas prévu que les Jordaniens se battent. D'après les infos qu'ils nous ont fait passer, ils n'ont pas prévu de rentrer dans la guerre. Donc nous, on a deux fronts, un au nord contre la Syrie, un au sud contre l'Égypte, et c'est tout. On n'est pas prêt à se battre au centre. Et c'est lorsque le 5 juin, au soir, bien, les Jordaniens se mettent sous la disposition des Égyptiens et donc rentrent dans le conflit, à ce moment-là, il faut faire quelque chose. Et le « il faut faire quelque chose », c'est pas « il faut aller conquérir Jérusalem », non, non, pas du tout. Le « il faut faire quelque chose », c'est « il faut aller prêter main forte à Har HaTzofim », au Mont Scopus, qui était l'enclave juive sur la montagne. Parce que les Jordaniens sont en train de s'avancer vers Har HaTzofim. Et donc, on va dépêcher la Khativa 55 et le Gdout 66 pour entrer et prêter main forte à Har HaTzofim. Et donc, bah pour monter jusqu'à Har HaTzofim, il faut passer par l'endroit où il est censé avoir beaucoup de résistance jordanienne, à savoir l'école des officiers juste derrière Givat HaTachmoshet. Il y a la colline des munitions, mais il n'est pas censé avoir là-bas beaucoup d'hommes, l'école des officiers, et ensuite on peut avancer vers Har HaTzofim. Et donc, eh bien, le Gdout 66 est envoyé là-bas, ce sont des Milouimnikim. Ce sont tous des mecs qui ont femme et enfants. Et ils partent. Et ils partent là-bas pour se battre à Givat HaTachmoshet. Le combat va être le grand n'importe quoi, mais alors mamash, parce qu'on n'est absolument pas prêt pour ce combat. Le combat de Givat HaTachmoshet va durer de 2h30 du matin à 7h10 du matin, mais il n'est pas préparé. Le briefing qu'on a, il est à 10h du soir et il est avec une carte, d'une photo aérienne de tout Jérusalem, où Givat HaTachmoshet n'est pas plus grosse que mon doigt. Genre, tu peux pas préparer un combat comme ça. En plus, tu arrives là-bas, c'est la nuit, et tu croyais, d'après les infos que tu avais reçues, qu'il y avait une mahlaka de Jordaniens sur la Giva, donc une trentaine d'hommes. Donc toi, tu es venu avec une plouga, 90 hommes, parce que tu sais que l'attaquant, il doit être trois fois plus nombreux que le défenseur. C'est comme ça qu'on t'a appris à l'armée. Et quelle n'est pas ta surprise que quand tu arrives, bah en fait, il n'y a pas une mahlaka, il y a deux plougottes jordaniennes qui sont là-bas. Donc, tu es non seulement en infériorité numérique, non seulement en infériorité stratégique, tu connais pas le terrain, tu sais qu'il y a trois tranchées qui te font monter la colline. Mais c'est la nuit, on se fait éclater. Et donc, dès le début, ben, on se plante. Et celui qui devait aller dans la tranchée de droite, ben, il y va. Mais celui qui devait aller dans la tranchée de gauche, il s'est planté, il va dans la tranchée du milieu. Et donc, celui qui devait aller dans la tranchée du milieu, il y va aussi. Et résultat des courses, ben, il n'y a personne dans la tranchée de gauche. Le balagan. 4 heures de combat. Et chaque seconde, ce sont des maasek voura. Ce sont des actes d'héroïsme de ceux qui sont tombés et de ceux qui ne sont pas tombés. Et finalement, eh bien, on prend la Giva. Finalement, on prend le Beth Sefer, la Chotrim, où il y avait presque personne d'ailleurs. Et finalement, on arrive à la fin de la journée à l'hôtel ambassadeur, à l'hôtel des sept arches qui est sur le mont des Oliviers. Et à ce moment-là, ben, on attend. On attend la réunion top secrète qui aura lieu le lendemain matin, à 6h du matin, entre le Ramatkal, Yitzhak Rabin, le chef d'état-major, le ministre de la Défense, Moshe Dayan, et Motagour, le commandant des parachutistes en place, pour dire, allez les gars, on y va. On y va et on va prendre la vieille ville. Rabotai, c'est une histoire complètement folle. Le 6 juin, on arrive à la vieille ville. Le 7 juin, on arrive à la vieille ville, c'est le lendemain, donc ce n'était pas du tout prévu. Et on arrive, et là, ben on gagne. Des combats de malades pour finalement entendre cette phrase dont on a tellement rêvé, Arabaït Beyaden. Mais 2 secondes. Moi, je me retrouve face à ce mur avec tous ces noms. Et à un moment donné, je ne fais même pas attention sur quoi je me tiens. Parce que je suis obnubilé par le mur. Et à un moment donné, eh bien, par humilité, je pense que c'était un réflexe, je baisse un peu la tête pour, comme pour m'incliner devant eux. Et je vois que sous mes pieds, en fait, je me tenais sur une vitrine, parce que tu marches sur une vitre, et sous la vitre, il y a 182 pierres qui sont prises de 182 chrounotes différentes de Jérusalem. Pour montrer justement, comme tu disais tout à l'heure, que l'idéal, l'idée que représentait Jérusalem n'était pas du tout détachée de la réalité des pierres de Jérusalem. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte, mais voilà, voilà l'éternité dont on parle. Ces pierres-là étaient les pierres qui étaient en place à l'époque du Beth Amikdash. Il y a des pierres là-bas qui viennent du Kotel. Et il y a, face à ces pierres, les nouveaux juifs de 2000 ans plus tard qui ont rêvé Jérusalem et qui sont arrivés à Jérusalem. À ce moment-là, eh bien, on a entendu dans la radio, le mont du Temple est entre nos mains. Ve'azma. Ve'azma kore. Ve'anetzar ze Yerushalayim. Ok. Amenatzeach, en hébreu, le chef d'orchestre, c'est celui qui comprend que chaque instrument il a un rôle à jouer, que prise différemment, chacun séparément, ça ne sera pas une symphonie. Que si on les laisse faire n'importe quoi ensemble, ça sera une cacophonie. Que seulement si on comprend que chacun est nécessaire en harmonie avec l'autre, alors ça fera cette musique qu'on attend tellement. Le Rav Kook dira dans Igrot Reiya, dans une lettre qu'il envoie à son fils, que Yerushalayim, c'est l'harmonie du monde. Ok. L'harmonie du monde, Rabotai. Qu'est-ce que ça veut dire, l'harmonie du monde? Eh bien, c'est cette dimension de menatser, qu'on a besoin de tout le monde. Qu'on a besoin de tout le monde, chacun à son endroit. Et qu'il ne faudrait pas essayer de chercher à ce que l'autre y soit moi et que moi je sois l'autre. Vous savez, Jérusalem, c'est une ville qui est un petit peu particulière. C'est la seule véritablement qui réunit tout le monde. Alors, il y en a peut-être d'autres. Mais de manière générale, en Israël, il y a peu de villes où toutes les communautés se côtoient. Les religieux orthodoxes, les religieux sionistes, les religieux comme ci, les religieux comme ça, les pas religieux, les anti-religieux, les traditionalistes. Il y a de tout à Jérusalem. Et ça se passe très bien. C'est pas comme dans d'autres villes du Merkaz où tout le monde a une kippa sruga sur la tête. Ou alors de l'autre côté du pont où tout le monde a une kippa noire sur la tête. Il n'y a pas vraiment de melting pot dans les villes du Merkaz. C'est soit on a une kippa sruga, soit on a une kippa noire, soit on n'a pas de kippa. Je parle de manière générale. Jérusalem a cette dimension particulière que tu trouves tout le monde. De la même façon que dans ce mur doré dont je vous ai parlé, ben, dans ces noms, tu vois qu'il y en avait tous. Il y avait des religieux, il y avait des paroliges, il y avait des ashkenazines, des sfaradines, des hommes, des femmes. Il y a tout le monde pour Jérusalem. Et c'est ça la dimension de Jérusalem. Vous savez, quand on pose la question de manière purement historique, comment ça se fait qu'en 48, on n'a pas réussi à prendre Jérusalem ? Ben, la réponse, elle est très simple. C'est parce qu'on a fait 3 opérations pour libérer la ville. Voilà. Oui, pourquoi 3 ? Ben, parce qu'à l'époque, il n'y a pas encore véritablement Tsahal. Il y a la Haganah, le Hetzel et le Lehi. Et vu que c'est plus important de se détester les uns les autres que de s'unir, eh bien, on fait 3 opérations, une de la Haganah, une du Hetzel, une du Lehi. Et les 3, elles ne marchent pas. Alors que si on avait décidé de la faire ensemble, géostratégiquement parlant, on aurait pu gagner. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle en 1967, ben on va prendre Jérusalem. Parce qu'on a dit à Jérusalem, il faut tout le monde. En 1967, c'est la seule fois dans l'histoire d'Israël qu'il y aura un gouvernement d'union nationale. C'est-à-dire pas d'opposition, pas comme aujourd'hui, où il y a un gouvernement de centre-gauche. Non, je te parle... un vrai gouvernement d'union nationale, là où il n'y a pas d'eau. Tout le monde est ensemble. Tout le monde est ensemble. Et c'est à ce moment-là qu'on va prendre Jérusalem. C'est à ce moment-là qu'on va s'élever à cette dimension de Menatzer. Mais, dans le même souffle, ben, je dirais la chose suivante. Au moment où les soldats sont avancés et sont arrivés à Arabaït Beyadène, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi la suite des événements ? La guerre n'est pas terminée. On a conquis le monde du temple. Génial, Vazma. Eh bien, à ce moment-là, bah, faut continuer. Donc, on laisse certains soldats en haut de la montagne, d'autres vont descendre au cotel, d'autres vont continuer les combats, tout ce que tu veux. À ce moment-là, un des officiers vient voir un jeune soldat qui a 20 ans, qui s'appelle Sroulik, et il lui dit, Sroulik, ata omed kan, afrad lozaz. Toi, tu te tiens ici, tu gardes, et il n'y a personne qui bouge. Il y avait devant lui une centaine d'Arabes qui avaient été fait prisonniers, qui étaient assis et qui ne bougent pas. Et Sroulik, qui est là avec son arme, et qui est là, qui attend. Seulement, où il est, Sroulik ? Il est à l'entrée du Dôme Doré. Je n'appelle pas ça la mosquée d'Omar, parce que ce n'est pas une mosquée, mais du Dôme Doré. Il est là, et il va attendre pendant quelques heures, en garde. Et là, il se dit, mais c'est complètement fou ce qui est en train d'arriver. Parce que moi, je me tiens à l'endroit du Bet Kodesh à Kodashim. C'est-à-dire que je suis le premier juif à être ici depuis le dernier Kohen Gadol à la destruction du deuxième temple. C'est absolument fantastique. Et là, il commence à se poser une question. Il se dit, sauve! Puisque je suis à l'endroit du Kohen Gadol, Kodesh HaKodashim, Bet HaMikdash, qu'est-ce que je sais du Bet HaMikdash ? Alors, ce petit Sroulik, il a 20 ans, mais c'est un relige, tu vois. Il a étudié 2-3 trucs dans sa vie. Il est pas mal bâti, il est bien calé en Ilchot Shabbat, en Ilchot Kashrut. Et il commence à réfléchir et il se rend compte qu'il ne connaît pas grand-chose du Bet HaMikdash, qui ne représente que plus des 2/3 des mitzvot de la Torah, mais ça, c'est pas très grave. Et à ce moment-là, il se met à rêver. À rêver d'un monde où les gens connaissent le Beth Amikdash, où les gens, leur réalité Beth Amikdash est tout aussi présente que n'était la réalité Yerushalayim quand on n'y était pas. Et donc, il prend une décision. Il dit, moi, quand je sortirai de l'armée, eh bien, je dévouerai ma vie à faire en sorte que Am Israël connaisse ben, le Beth Amikdash. Et Sroulik, après l'armée, redevient Israël. Et Israël va devenir Reb Israël quand il va devenir un Avrech à la Yeshiva. Et Reb Israël va finalement devenir le Rav Israël Ariel qui va créer le Machon HaMikdash. En fait, c'est de ça qu'on parle. Ve'anetzar ze Yerushalayim. Seulement le pasouk qu'on a cité au début du cours continue. Ve'ahod ze Bet HaMikdash. Nous sommes arrivés à Jérusalem. Nous vivons aujourd'hui, et pour tous ceux qui se baladent à Jérusalem en voiture et qui sont énervés dans les embouteillages de Jéru, Mais qu'est-ce que t'es énervé? Bon, vous dites ça à quelqu'un qui est en vélo et qui n'a pas d'embouteillage. Mais qu'est-ce que t'es énervé? Dans la Megillah de Eicha, il y a marqué « De Rei Tzion Avelot En Baish ». Les chemins de Jérusalem sont endeuillés, il n'y a personne. Et toi, tu pleures parce qu'il y a beaucoup trop de voitures. Arrête, à chaque fois qu'on est dans des embouteillages, on doit penser à Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim. Il y a des travaux tout le temps à Jérusalem, ça ne s'arrête jamais. D'accord ? Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim. Rabotai, une fois qu'on a compris ça, alors on doit, c'est pas qu'on peut, on doit passer à l'étape supérieure. Et l'étape supérieure, c'est quoi ? Zébet Amikdash. Car nous dira la Gemara dans ma Sacrée Brachot que vers où on doit se tourner quand on fait la tefila. Alors vous le savez, on doit se tourner vers, ouais, pas vers l'est, vers le Bet Kodesh HaKodeshim. Mais attention, attention, qu'est-ce que ça veut dire vers le Bet Kodesh HaKodeshim? Selon les différentes ramot, la Mishnah nous dit, la Braïta Sera nous dit, quand vous êtes en Chutz La'aretz, on se tourne vers Eretz Israël. Quand vous êtes en Eretz Israël, on se tourne vers Jérusalem. Quand tu es vers Jérusalem, à Jérusalem, tu tournes vers Beth Amikdash. Quand tu es au Beth Amikdash, tu tournes vers Kodesh HaKodeshim. Pour qu'au final, tout le monde soit mechouvanim, soit en direction du Beth Kodesh HaKodeshim. Entre parenthèses, je veux simplement dire un truc qui n'est pas réalisable au niveau de la halakha, puisque Am Israël est Noeg Acheret. Mais il faut comprendre un truc. D'après la halakha, quand tu as une synagogue devant toi, synagogue, c'est en 10 puissance 42 moins fois puissant que le Beth Amikdash. Mais quand tu es à la Beth Knesset, tu n'as pas le droit de te mettre dehors de la Beth Knesset et de lui tourner le dos pour prier. C'est-à-dire que si tu ne peux pas rentrer dans la synagogue, tu n'as pas le droit de tourner le dos à la synagogue. Tu dois te mettre dans le même sens que la synagogue. Donc ça veut dire que si tu es derrière la synagogue, du côté où il y a le Echal, eh bien tu dois te tourner dans le même sens que le Echal. Et c'est un vrai problème, parce que quand on va au Kotel, il faudrait en fait ne pas faire face au mur. Parce que le kivoun du Beth Amikdash, il est d'est en ouest. Et donc, quand tu es au Kotel et que tu te tournes vers le mur, tu te tournes d'ouest en est. Donc, il faudrait arriver au Kotel et se retourner. Mais qu'en irait que Zetakana Shatzibur l'Ochola Modba? C'est trop ancré dans le peuple juif. Mais bon, l'homme chané, l'honora. Il faut arriver à s'éveiller à cette dimension qui s'appelle Beth Amikdash. Comment est-ce qu'on fait? C'est pas compliqué. Il faut commencer à réapprendre tout ce qui concerne le Beth Amikdash. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le Beth Amikdash, sa dimension, sa valeur, qu'on a appelé le Hod, Mazé. Mazé Hod. Hod, c'est l'inverse du mot Davé. Yov nous dira, lorsqu'il est en train de vivre les pires moments de sa vie et qu'il sent qu'il va mourir, il dit « Vehodi ne'epach alai lemashrit ». Et comme on dira dans la Megillah de Eicha, « Ve'alze ayadave liben ». Lorsqu'on sent qu'on va mourir, c'est davé. Donc c'est quoi Hod? C'est lorsqu'on est retourné à la vie. Le Beth Amikdash, c'est ce qui me rattache à la vie. Yerushalayim, c'est ce qui me rattache à l'éternité. Le Beth Amikdash, c'est ce qui me rattache véritablement à la vie. Rabotai, pour pouvoir arriver au Beth Amikdash, eh bien, il faut une dimension qui est la dimension que nous devons mettre en pratique. Pas que ce Yom Yerushalayim, mais de manière générale. C'est la dimension, non pas d'éternité qu'on vient de voir, mais la dimension cette fois de chibour, d'unité, mais d'une unité un petit peu particulière. Les premiers qui ont été au Harabait, d'après la Torah, sans parler du Midrash, regardez le cours du 19 mai du Rav Ackerman sur Midrashet Yehud Manitou. Ben d'accord, j'irai voir. Pourquoi il dit ça ? Ben j'espère que j'ai fait honneur au Rav Ackerman et que Kivanti le Dad Gdolim. Ce serait un honneur de pouvoir dire les mêmes choses que lui. En tout cas, ce que je veux dire, la chose suivante. Les premiers qui arrivent au Harabait, d'après la Torah, sans parler des Midrashim, eh bien, c'est Avraham et Yitzhak. Be'akeda, be'ar Amoria. Seulement, on nous dit là-bas qu'ils arrivent, va'yelchou shenehem yachdav. On ne nous dit pas qu'ils arrivent be'yachad, mais on nous dit qu'ils arrivent yachdav. C'est quoi la différence entre be'yachad et yachdav? Eh bien, be'yachad, c'est que toi et moi, on avance ensemble, mais on est toi et moi. Yachdav, c'est que toi et moi, on est un. Mamash. On est mamash, comme dit l'Admon Hazaken dans le Tanya, neshama achat begufim mechulakim. Mamash kacha. Ça, c'est Abraham et Yitzhak. Et ça, c'est la dimension qui doit être pour arriver au Beit HaMikdash. Ah, il y avait Meod. Ben, Simcha, j'irai voir. C'est la dimension du Beit HaMikdash. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, c'est la dimension du Beit HaMikdash? Ben, je vais vous dire. Le Beit HaMikdash, l'endroit du Mikdash, par opposition à la ville de Jérusalem, qui elle a été conquise par David, l'endroit du Beit HaMikdash, il ne l'a pas conquis, il ne veut pas. Il veut l'acheter. Combien ça coûte, Goren, Aravna, Yevoussi, le mont du Temple? Combien David l'a acheté? Ben, le problème, c'est qu'on a en Marloquette. Parce que d'après le Sefer Shmuel, eh bien, il a payé 50 shekels. Bon, ce n'est pas les mêmes shekels qu'aujourd'hui, évidemment, mais 50 shekels. Top, fair enough. Le problème, c'est que quand on va aller regarder dans le livre de Divrei Hayamim, eh bien, on se rend compte que David a acheté le Har HaBayit pour une somme de 600 shekels. Quoi, il y a eu une inflation entre Shmuel et Divrei Hayamim et Lama. Quand on comprend quelle est la relation entre 50 et 600, bah, c'est très simple, c'est 12. Et donc, vous comprenez. La Gemara dans la Maseret Hagiga va nous dire tout simplement, Bevadai, David il a donné 50 shekels au nom de la tribu de Yehuda. Et chaque tribu des 12 tribus ont donné 50 shekels. Ce qui nous amène à 600. En d'autres termes, Harabait a été acheté par Klal Israël en entier. Car si tu veux intégrer cette dimension-là, alors tu dois passer par tout le monde. Tu dois passer par cette dimension de Yachdav. Yerushalayim ke'ir shechu berala Yachdav. Matai? Bamikdash. Yom Yerushalayim, pendant 2000 ans, a été le rêve de la libération des pierres de Jérusalem. Maintenant qu'on a libéré les pierres de Jérusalem, Yom Yerushalayim doit devenir le rêve de l'étape d'après, le rêve du Beit HaMikdash. À quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir le Beit HaMikdash? J'ai dit tout à l'heure, Beit HaMikdash c'est Hod, Hod c'est la vie. Mais à quoi ça nous sert d'être rattaché à la source de vie? À quoi ça sert concrètement? Pourquoi? C'est quoi le but? Eh bien, le but, c'est d'arriver à remplir la mission du septième jour. Et la mission du septième jour, c'est Vayikadesh Oto. C'est d'arriver, nous, à la dimension de Kedusha. Arriver à devenir Kedoshim, remplir le pasuk Kedoshim Tiyu Kikadosh Ani, c'est notre rôle. Et c'est l'objectif que nous avons pour reconstruire le Beit HaMikdash. C'est pourquoi, eh bien, ce cours, c'est pas anodin qu'on le fasse maintenant, puisque ce cours se fait à une soirée très particulière. Parce que, comme vous le savez, alors, je vais pas l'annoncer comme ça, parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui n'ont pas compté déjà ou pas, mais il paraît que au niveau des comptes du Homer, il paraît que hier, c'était 40. Je veux pas déranger les gens, pour ceux qui n'auraient pas compté encore ce soir. Mais il paraît que hier, c'était 40. Donc, si je calcule bien de ce que représente ce soir serait donc l'avant-dernier jour de l'avant-dernière semaine. C'est intéressant parce que les Mekoubalim nous ont expliqué que chaque semaine représentait une sphira. Et que donc, l'avant-dernière semaine, la sixième semaine, représente la sixième sphira, qui est la sphira de Yesod. Et nous sommes donc le sixième jour de la sixième semaine, ce qui fait que ce soir, nous sommes dans Yesod, Sheba Yesod. C'est le Yesod du top. Mazéa Yesod. Hayesod, la base. Hayesod, Zat Tzadik. Tzadik Yesod Olam. Hatzadik, c'est celui qui arrive tout simplement eh bien, à nous amener de l'état de Yachar, c'est-à-dire de celui qui veut faire le bien, à celui qui réalise le projet divin. Il y a un homme qui a pris sur lui de nous apprendre comment on passe de simple être humain à Kadosh qui réalise le projet divin et qui nous permet d'arriver à la dimension du Bet Amigdash. Cet homme, il s'appelle le Ramchal. Et ce soir, c'est Saïloula. Celui qui nous a écrit le livre du Tzadik, Mesilat Yesharim, qui nous apprend à devenir Kadosh, eh bien, c'est ce soir, Bayesod chez Bayesod, Saïloula. Le fait qu'on devienne Kadosh nous permet d'entrevoir l'objectif du Bet Amigdash. L'objectif du Bet Amigdash et de nous redonner la proximité avec la source de vie pour que nous puissions exprimer cette vitalité dans la Kedusha que nous mettons dans le monde. Eh bien, si pendant des années, des milliers d'années d'exil, Jérusalem était un rêve, aujourd'hui, Jérusalem est un rêve éveillé et le Beth Amikdash est devenu notre nouveau rêve. Et pour reprendre ce que disait un certain barbu, si vous le voulez, ça ne sera pas un rêve. Mais il est temps qu'on le veuille. Il est temps qu'on le veuille parce que, eh bien, ce n'est pas que nous qui sommes en stand-by Beth Amikdash. Ceux qui sont en stand-by Beth Amikdash, c'est le monde entier. Il y a cette agada, vous savez, personne ne sait si c'est vrai, si c'est faux. Cette agada que Napoléon, un jour, aurait suivi des Juifs comme ça à Tisha B'Av, et leur aurait demandé pourquoi ils pleurent, et les Juifs leur disant que c'est à cause du Beth Amikdash détruit, il aurait dit un peuple qui est capable de pleurer 1700 ans après la destruction de son temple, mais c'est sûr qu'il verra sa reconstruction. Personne ne sait si cette agada, elle est vraie, elle n'est pas vraie. Lo kol kach mishaneh. Ma sheken mishaneh, c'est que nous sommes maintenant à l'heure où le monde entier attend le Beth Amikdash, même s'il n'ose pas le dire. C'est à nous de leur proposer cette vision, de leur proposer ce rêve. Nous n'avons pas eu honte, pendant 2000 ans, de leur dire que Jérusalem, pour nous, c'est central. Au moment où les chrétiens ne parlaient pas de Jérusalem et avaient tourné leur regard vers Rome, au moment où les musulmans ne parlaient pas du tout de Jérusalem, au moment où l'Empire ottoman faisait de Jérusalem la poubelle du Moyen-Orient, nous avons continué à dire « La Shana Abba Birushalayim », on n'a pas eu honte. Il est temps de ne plus avoir honte, de commencer à réenseigner au monde que lui aussi, il a besoin du Beth Amikdash. Et à ce moment-là, eh bien, comme il est marqué dans Ishayahu Hanavi, eh bien, les goyim viendront et demanderont qu'on leur enseigne les voies de se lier à Kadosh Baruch Hu, et diront cette phrase que nous connaissons tous, « Ki mitzion tetzé Torah udvar Hashem Yerushalayim ». Voilà quelle est notre mission pour le Yom Yerushalayim de Tafshin Pei de 2020. Voilà, je pense qu'on a du boulot. Prochaine étape, visite au Beth Amikdash. Voilà. Élie, c'était pour toi la référence au Beth Amikdash.
Il s'est endormi,
Élie. Il s'est
endormi, hein. Ah non, j'étais en mute. Je disais message reçu.
Non, parce que tu te rappelles de ce qu'on devait faire avant le confinement.
Mais le groupe WhatsApp existe toujours. Et ils attendent. ils en redemandent.
On est en stand-by. On est en stand-by. Ah, et... oui, vas-y, question.
Une petite question un peu hors sujet. Mais quand on rêve de Jérusalem, est-ce qu'on rêve forcément... Et tu l'as dit, on rêve forcément Corbanot.
Ah, c'est, la question, elle est tournée plus sur le Beth Amikdash, pas sur Jérusalem.
Oui.
Ok. Parce qu'on fait, on n'a pas le droit de faire des Corbanot dans Jérusalem, chutz le Beth Amikdash.
Corban Pessah.
Corban Pessah, on ne peut pas le faire, mais chutz le Amikdash. On peut le faire, mais quand la Hazara.
Manger.
Oui. C'est-à-dire. Non, manger à d'autres Corbanot qu'on peut manger dehors, mais bon,
non,
j'ai. Non,
mais ce que je veux dire, dans l'idéal de Jérusalem, on parle forcément Corbanot ou il y a une possibilité d'imaginer la construction du Beth Amikdash.
Tu parles d'un Beth Amikdash. Tu veux faire un Beth Amikdash vegan, quoi. Al-Zeneemar, Bagemara, Yete Velo Achmine. Que ce jour vienne, je ne veux pas le voir. Un Beth Amikdash vegan. Non, mais tu nous as pris pour qui? Le Rambam est possède.
Il n'y a pas marqué à Tidin les bêtes de la Corbanot, je ne sais pas les Corban Toda.
Non, d'abord, non. Et deux, même le fait que tu dis sauf les Corban Toda, ça veut dire qu'en fait, lo atidim libatel. Le Rambam est posek la halakha dans Ilchot Melachim que l'atid lavo, amer Mashiach, mechadesh korbanot, ki mekadem, ve kol korbanot, kol korbanot. Certes, c'est vrai que le Rav Kook dira dans le Chazon Hatzimchonot Vashalom que lorsque les animaux s'élèveront à l'état au niveau de l'homme, alors les korbanot seront que du végétal. Donc, la prochaine fois que tu vois une vache qui te dit « Salut, comment ça va ?» alors ne la chrippe pas. Mais tant que la vache ne te dit pas une Mishnah Béalpé, c'est bon, tu peux y aller, tu peux te faire un steak. Aval Big Doucha.
Ok.
Mais je pense que ta question, en fait, elle vient du fait qu'on est très très loin de comprendre, et ça fait partie des sujets qu'il faut étudier, qu'on est très très loin de comprendre à quoi ça sert les corbanotes. Ouais, parce que si on pense que les corbanotes c'est pour donner à manger à Dieu parce que sinon il est vénère, on n'a pas vraiment compris de quoi il s'agit. Ça aide, hein ? Mais effectivement, c'est un autre sujet, ça peut être intéressant. Voilà, bon, Balou.
Merci.
Alors, chez Chag Sameach, les coulins.
Chag Sameach à tous.
Amen, amen.